Joukov se leva. « Avez-vous pris connaissance du protocole de capitulation ?»« Ya, » répliqua Keitel d'une voix forte. « Êtes-vous habilité à signer ?»« Ya. » « Montrez-moi votre mandat. » Keitel s'exécuta. Extrait de la conversation entre les maréchaux Joukov et Keitel, le 8 mai 1945.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 20 avril 1945, Hitler fête ses 56 ans. Il est entouré des grands dignitaires du Reich. Himmler, Göring, Ribbentrop, Keitel. Mais 56 ans, les fait-il encore? Il a les traits tirés, il est voûté, sa main gauche tremble à cause de la maladie de Parkinson et les opérateurs d'ailleurs des actualités allemandes veillent à ne pas la montrer. Il fait 20 ans de plus. Celui qui, il y a encore 3 ans, était maître de l'Europe, ne contrôle plus que quelques quartiers dans Berlin et la chancellerie avec son bunker. L'homme comprend que la guerre est définitivement perdue. Il décide alors de régulariser sa vie privée. Et le 29 avril, il se marie avec Eva Braun, qui fut sa compagne pendant plus de 10 ans. Mais les deux jeunes mariés avaient bien décidé de ne pas survivre à la chute finale du Reich. Ils se sont donc donné la mort le 30 avril par le cyanure et, en ce qui concerne Hitler, avec une balle dans la tête. Il n'était pas question, comme le disait le Führer, d'être exposé dans le zoo de Moscou. En fait, les Allemands ne surent pas tout de suite que Hitler s'était suicidé. Ils ne l'apprirent que le 1er mai, dans un communiqué où on prévoyait, où on indiquait qu'il était mort dans l'après-midi et qu'il était surtout mort à son poste de combat dans la chancellerie du Reich, luttant jusqu'à son dernier souffle contre le bolchevisme. À vrai dire, il y avait une double désinformation. Il n'était pas mort dans l'après-midi du 1er mai, mais la veille, et surtout, il n'était pas tombé durant des combats contre les soviétiques, mais bien par le suicide au fin fond du bunker. D'ailleurs, dans sa déclaration, l'amiral Dönitz, qui avait été désigné comme le nouveau président du Reich, évoque lui aussi cette mort héroïque à la tête des défenseurs de la capitale du Reich. Et cette déclaration a été ponctuée par la musique de Wagner qui devait accompagner la fin du Reich. Le mensonge sur la mort d'Hitler ne dura pas beaucoup de temps. En fait, dès le 2 mai, le général Edmund Weidling, qui était le commandant de la garnison de Berlin, savait qu'Hitler n'était pas mort au combat, mais s'était donné à mort. D'ailleurs, quand il annonce la capitulation de sa garnison, il fait passer ce message à ses troupes. Le 30 avril 1945, le Führer s'est donné la mort et ainsi a abandonné ceux qui lui avaient juré fidélité. Mais le Führer mort, cela ne signifie pas encore tout à fait la fin de la guerre. Pour l'Allemagne, il s'agit désormais d'assumer la capitulation sans condition que les Alliés avaient décidée lors de la conférence de Casablanca de janvier 1943. L'amiral Dönitz, qui a succédé à Hitler comme président du Reich, demande à ce que l'on fasse l'acceptation de cette capitulation. Ce sera le maréchal Wilhelm Keitel qui sera chargé de signer au nom du Troisième Reich l'acte de capitulation à Berlin même. Les soviétiques sont représentés par le maréchal Yukov. Celui-ci était devenu célèbre puisqu'il avait sauvé Moscou en décembre 1941. Il était un des responsables de la victoire soviétique à Stalingrad et il avait donc eu l'honneur de prendre Berlin en avril 1945. Il se trouve à l'aéroport de Tempelhof afin d'attendre la délégation américaine. Il pense recevoir le général Eisenhower. Or, les soviétiques sont surpris parce que Eisenhower n'a pas fait le chemin depuis Reims, où il avait déjà reçu une première capitulation, mais il voit apparaître Sir Arthur Tedder, maréchal de la Royal Air Force, et qui est un personnage important, mais qui ne commandait pas en chef les troupes comme Eisenhower. Ensuite, l'autre problème qui se pose est de savoir qui va véritablement signer l'acte de capitulation. En effet, le général Delattre de Tassigny, qui commande les troupes françaises en Allemagne, estime que la France doit effectivement participer à la capitulation. Au demeurant, il est vrai que les Anglais et les Américains, ainsi que finalement les Soviétiques, acceptent la présence d'un Français, mais alors se pose un problème protocolaire. Yukov signerait pour l'Union soviétique, Tedder représenterait la Grande-Bretagne, Tassigny la France, mais alors et les États-Unis. Et donc, on va finalement demander à ce qu'il y ait un représentant des États-Unis, en l'occurrence le général Spatz. Donc c'est bien les quatre grandes puissances de la coalition qui vont recevoir le maréchal Keitel. Autre petit problème qui peut paraître anecdotique, mais qui signifie bien le désordre dans ce Berlin de mai 1945, c'est la constitution d'un drapeau français. En effet, quand le général Delattre de Tassigny entre dans la salle où doit avoir lieu la capitulation, aucun drapeau français ne se trouve présent. Or, le général, avec courtoisie, demande à ce que l'on mette, à côté des drapeaux britanniques, américains et soviétiques, un drapeau français. Des soldats de l'armée soviétique, des femmes soldats, se mettent au travail et cousent donc les trois couleurs françaises. Le problème, c'est qu'elles ont confondu drapeau français et drapeau néerlandais, ce qui fait que Eisenhower leur a fait comprendre qu'il faudrait peut-être refaire le drapeau afin que celui-ci ne soit pas fait de manière horizontale, mais bien verticale. Reste à faire signer la capitulation. C'est un peu avant 23h30, ce 8 mai, que le maréchal Keitel, accompagné de l'amiral Friedeburg et du général d'aviation Hans-Jürgen Stumpf, entre dans la pièce où ils sont aveuglés par les projecteurs et les flashs des appareils de photo. Keitel fait un pas en avant. Il est encore assez impressionnant dans son uniforme allemand impeccable. Il lève son bâton sèchement pour saluer et s'assit avec raideur. Débute alors une courte conversation entre lui et le maréchal Yukov. Celui-ci se lève. « Avez-vous pris connaissance du protocole de capitulation ?»« Ja, » explique Keitel. « Êtes-vous habilité à signer ?»« Ja. » « Montrez-moi votre mandat. » Keitel s'exécute. « Avez-vous des observations à faire sur les modalités de l'acte de capitulation que vous allez signer ?» Après que Keitel, sur un ton pincé, eut demandé un délai 24 heures, Yukov regarda autour de lui d'un air interrogateur et dit « Cette requête a été rejetée. Pas de modification. Avez-vous d'autres remarques à faire ?»« Nein. Alors, signez. » Keitel se leva, ajusta son monocle et gagna l'extrémité de la table. Il s'assit à côté de Delattre, plaçant son képi et son bâton devant le français. Delattre eut un geste pour les repousser, et le maréchal allemand les écarta. Il s'était d'ailleurs lui-même montré surpris de voir une présence française lors de la capitulation, puisqu'il aurait répliqué en voyant Delattre de Tassigny « Tiens, les Français sont là aussi, il ne manquait plus que cela. » Puis, devant des dizaines de crépitements d'appareils de photographie, Keitel signe l'acte de capitulation. Tedder, qui fait face à la délégation allemande, lui demande « Comprenez-vous les termes de ce que vous venez de signer ? » Keitel acquiesça de la tête, se mit debout une nouvelle fois, salua de son bâton de maréchal et sortit de la pièce en grandes enjambées, le menton toujours levé. Reste maintenant à annoncer la capitulation sans condition au peuple allemand. C'est l'amiral Dönitz qui, depuis son réduit de Flossenbürg, dans le nord de l'Allemagne, à quelques kilomètres des troupes britanniques, s'en charge. Camarades, nous avons été repoussés de 1000 ans dans notre histoire. Cette terre qui fut terre allemande pendant un millénaire est maintenant tombée aux mains des Russes. D'autre part, la ligne politique que nous devons suivre est extrêmement simple. Il est clair que nous devons marcher avec les puissances de l'Ouest et travailler avec elles dans les territoires occupés à l'Ouest, car ce n'est qu'en œuvrant ainsi que nous pourrons espérer plus tard reprendre notre pays aux Russes. Le destin particulier de chacun de nous demeure incertain. Ceci toutefois est sans importance. Ce qui est important, c'est de maintenir au niveau le plus haut entre nous la camaraderie que nous avons créée au milieu des bombardements aériens que subissait notre pays. C'est seulement à travers cette unité qu'il nous sera possible de maîtriser les temps difficiles à venir, et seulement de cette manière que nous pouvons être sûrs que le peuple allemand ne mourra pas. Dönitz gardait une immense illusion sur le sort de l'Allemagne. Il allait être arrêté quelques jours plus tard.